Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Chaque année, 30 000 étudiants supplémentaires viennent occuper les bancs de la fac. Des étudiants toujours plus nombreux et des fins de mois parfois difficiles pour les universités. Limoges, Orléans, Lyon 3, Paris Est, ils étaient 9 établissements à être en déficit en 2015. Avec des conséquences, moins de postes d'enseignants, des heures de cours en moins, des filières qui ferment, des établissements qui fusionnent, contraintes budgétaires, qualité de l'offre des formations, valeur du diplôme, Univox s'arrête cette semaine à Besançon, où l'annonce de la possible fermeture de certaines filières à la rentrée prochaine a provoqué une levée de boucliers. Ça, c'était en décembre, grève des enseignants, étudiants, personnel de l'université, qui depuis a rétro-pédalé. Mais la question demeure, l'université française est-elle en faillite? Quelles conséquences sur l'enseignement? Une émission proposée par Radio Campus Besançon.
Univox.
Qui est pour la proposition? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote?
La grève, ça sert d'abord à nous protéger juridiquement. C'est à ça que servent les syndicats et c'est à ça.
Des mobilisations et des assemblées générales avec enseignants et étudiants, hein, ils en poussent un peu partout en France contre les restrictions budgétaires, à commencer par nos voisins bourguignons qui s'inquiètent eux aussi de la réduction du budget, notamment au sein de l'UFR Sciences Humaines, avec notamment les sections Lettres et Histoire. Juillet dernier, les étudiants de l'Université de Béziers apprennent par un courriel le déplacement dans le Master 1, Relations publiques vers le campus de Montpellier, et le Master 2 étant tout simplement supprimé. Bon, alors finalement, après une forte mobilisation, un compromis a été trouvé pour le Master 1, mais pour le Master 2, la décision est définitive. 1200 étudiants inscrits à l'Université de Reims en licence de psychologie à distance ont appris en septembre la fermeture pure et simple de cette formation. La présidence justifie cette décision par un contexte économique difficile. Mercredi 5 octobre, lors de la 5e AG, enseignants, chercheurs et personnel administratif de l'Université de Toulouse de Jean Jaurès votent pour la reprise des cours après 3 semaines de grève pour dénoncer, je vous laisse deviner, hein, le manque de moyens dans la section psychologie. La liste est encore longue, gel de 200 postes d'administratifs enseignants et agents techniques sur l'ensemble des sites de l'Université de Castres, fermeture du master lettres classiques à Rennes en 2013. Cette année, c'est au tour de la licence. Et, paradoxalement, le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche s'élèvera en 2017 à 92 milliards d'euros, dont 23 milliards pour l'enseignement supérieur, soit 784 millions de plus qu'en 2016. Alors la question, les questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut parler de crise des universités? Le budget est-il mal distribué selon les filières? Et le corps enseignant, personnel étudiant dénonce le manque de moyens malgré tout. Alors quelles sont les conséquences de ce manque de moyens? Quelles craintes? Voilà ces nombreuses questions que nous allons poser à l'ensemble des personnes qui sont avec nous sur ce plateau. Michel Savaric, vous êtes responsable de la licence langue étrangère appliquée. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci.
Emmanuel Jacquet, vous êtes co-responsable de la licence pro d'éducation design, c'est bien
Éco-design,
ça?
Éco-design.
Éco-design, voilà exactement. Maxime, président de l'association étudiante de la BAF, merci d'être là.
Bonjour, merci. Oui.
D'autres personnes encore avec toi, c'est ça?
Oui, j'ai aussi Thomas, donc du coup, qui est un étudiant en STAPS à Besançon.
Avec nous, le syndicat AMEB, donc avec Pablo, et enfin Amélie, qui est tuée en troisième année d'Infocom. Première question que j'ai envie de vous poser, à vous en tout cas, étudiants là, qui sont présents, comment vous vivez ce contexte universitaire un peu difficile et cette mobilisation? Alors pour commencer, peut-être toi Amélie, comment tu as vécu cette mobilisation et comment tu la vis actuellement?
Donc oui, même si ça ne me concerne pas directement, j'ai quand même essayé de participer aux AG, puisque c'est vrai que je me posais quand même la question de l'après, en fait, quelles valeurs auront nos diplômes une fois que certaines formations vont être fermées à Besançon. Et puis au niveau peut-être des masters aussi, parce que je suis en L3 Infocom, et normalement la rentrée prochaine est censée ouvrir un master pour notre filière. Et c'est vrai qu'on commence à se demander si vraiment ce master va pouvoir être ouvert. C'est des questions qu'on se pose beaucoup et même si ça ne nous concerne pas directement, on sait que si ça nous concernait directement, on aimerait aussi que d'autres étudiants se mobilisent pour notre cause.
Il y a une insécurité des diplômes. Alors, bientôt, les lycéens vont commencer à s'inscrire sur APB, admission post-bac. Est-ce qu'ils vont se lancer dans des filières qui, en fait, n'existeront plus d'ici à ce qu'ils y soient? Est-ce que c'est une inquiétude qui est partagée autour de cette table?
Quelles craintes, vous pouvez imaginer les craintes qu'on peut avoir quand on apprend comme ça de but en blanc que certaines licences pourraient ne pas être reconduites. Et donc il y a eu une volte-face du président qui dit maintenant que les formations, et c'était bien une injonction de la présidence de supprimer ces formations, donc il dit maintenant que les formations seront maintenues, donc on peut mettre ça sur à l'actif du mouvement qui a démarré. Mais le simple fait qu'il l'ait envisagé, ça montre vraiment à quel point on en est parvenu. Et donc ça a fait un choc immense parmi tous les collègues d'abord, et qui s'est ensuite propagé aux étudiants. Donc, et puis l'autre crainte, c'est vraiment la crainte de diplôme au rabais, d'une dévalorisation complète des diplômes, puisque d'un côté, on nous parle de favoriser la réussite, là, toute l'architecture sur laquelle on a travaillé comme des fous pour la prochaine rentrée 2017, elle est censée favoriser la réussite des étudiants en licence et notamment remédier au taux d'échec en première année. Et puis d'un autre côté, on nous annonce des mesures d'austérité budgétaire qui vont réduire de façon absolument drastique le volume des formations. Donc en gros, on nous demande de brader les formations. C'est comme ça qu'on le voit.
Pablo, tu voulais réagir toi au propos de Michel Savary?
Oui, j'avais juste un petit truc à ajouter sur a été évoqué la question de la casse des formations d'un point de vue aussi qualitatif, du fait que les formations sont vidées de leur contenu de fait par le manque d'heures, le manque de moyens, et enfin peu à peu c'est vers là qu'on se tourne, et c'est une logique qui est accompagnée aussi par des réformes. En fait, il y a un état de fait qui est les budgets sont insuffisants, et après il y a tout un tas de réformes et de mesures qui sont prises pour non pas pallier ce problème, mais pour l'accompagner et faire en sorte que l'université change de forme au fur et à mesure de ces baisses de budget. Et notamment, il y a une réforme là qui a été négociée dernièrement quant à la sélection en master qui avant était illégale, mais qui se pratiquait de fait par manque de moyens pour encadrer les recherches, qui se pratiquait parfois entre la première année de master et la deuxième année, donc de façon tout à fait scandaleuse, parce qu'on se retrouvait avec des étudiants qui faisaient un an d'une formation et qui n'avaient pas les moyens de la finir. Et il y a une réforme donc qui a été proposée, qui a été négociée par des organisations étudiantes comme la FAGE et l'UNEF, qui l'ont accueillie joyeusement, et par certains, et qui a été accueillie aussi comme un soulagement par certains enseignants qui n'avaient pas le choix que de faire de la sélection, et qui du coup cette sélection était légalisée, et elle a été légalisée entre la licence et le master, ce qui paraît plus rationnel, plus intelligent. Sauf que ça pose aussi un problème, c'est que en licence et en master, on ne fait pas le même type de travail. Donc on va être sélectionné au bout de notre licence pour intégrer des masters sur un travail qui n'est pas du même ordre. Et la sélection en fin de licence, ça veut dire une mise en concurrence des licences et des formations qui vont être entre les universités en concurrence, et les formations les mieux dotées, notamment dans les grandes villes, notamment parisiennes, permettront certainement une plus grande chance pour les étudiants d'intégrer les masters qu'ils veulent ensuite, alors qu'on a des formations qui vont devenir des formations poubelles, des formations abandonnées au profit d'autres, et ça va accroître encore l'inégalité entre les formations, et donc l'inégalité des chances qui existe déjà entre les étudiants, mais qui va être accrue par ça. Donc c'est toutes ces choses-là qui accompagnent les coupes budgétaires et qui accompagnent la casse de l'université comme une université la plus démocratique possible et la plus ouverte possible.
Sur cette question d'une université ouverte à toutes, on a posé quelques questions à Thierry Combe, qui est maître de conférences en gestion à l'université de Reims, Champagne-Ardennes. Il est élu au CNESER, c'est le Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il participe aussi à la conférence permanente des conseils nationaux des universités. Pour lui, très clairement, il y a un problème dans le financement de l'enseignement supérieur en France.
Il y a, je dirais, peu de définition d'objectif, parce que l'objectif, alors il est assez flou, c'est accueillir 50% d'une classe d'âge au niveau licence. Après, le deuxième objectif qu'on n'arrive pas à mesurer en termes de moyens, c'est est-ce qu'il faut réellement mettre en avant l'insertion professionnelle, c'est-à-dire transformer l'université en une formation professionnelle initiale. Donc ça, ça suppose aussi des moyens, et c'est assez flou. Puis le dernier point, c'est avec ces objectifs flous, il y a l'université qui accueille de plus en plus d'étudiants. Je crois que c'est plus de 100 000 étudiants depuis 5 ans qui sont au niveau de l'université. Et parallèlement, on n'a pas d'argent pour créer des postes. Cette année, il y avait 2400 profs d'enseignants-chercheurs, hein, comme par exemple, qui étaient ouverts. Finalement, il n'y en a eu que 1900 qui ont été réellement comment mis en proposition. Et c'est sur 1900, il n'y en a eu que 1800 qui ont été recrutés. Et pour la première fois depuis une bonne quinzaine d'années, le nombre d'enseignants-chercheurs en poste dans les universités a baissé. Donc il y a de plus en plus de choses à faire, de plus en plus d'étudiants, le même nombre ou un peu moins d'enseignants-chercheurs, puis de personnel administratif au sens large, et donc on se retrouve avec un réel problème de financement.
Donc oui, l'université ne pourra pas tout toute seule sur ses financements propres.
Voilà. Oui, oui, c'est parce que elle peut pas, elle a pas les moyens, elle a beaucoup trop de contraintes. On lui donne tout un tas de responsabilités, mais quand on veut être responsable, il faut réellement avoir les moyens. Et là, on les a pas. Et donc, ça veut dire qu'il faut que, bah, au niveau des partenaires, entreprises, collectivités locales, État, il y ait de quoi assumer les responsabilités qu'on donne à l'université.
Univox. Donc l'université qui n'aurait plus les moyens d'assumer les responsabilités qu'on lui donne, les moyens financiers. Je voyais que Michel Savary, que vous opiniez de la tête, effectivement, il y a de moins en moins d'enseignants pour remplir les missions d'enseignement qu'on leur confie.
Oui, oui, c'est très juste, c'est ce que l'on constate. Et en fait, ça, c'est la conséquence directe de la loi LRU et de sa pièce maîtresse qui était les responsabilités et compétences élargies, où maintenant les universités sont autonomes par rapport à leur budget. Seulement, l'État ne compense pas, par exemple, ce qu'on appelle le GVT, le glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire l'accroissement automatique de la masse budgétaire, parce que les personnels vieillissent et montent dans les échelons. Donc l'État estime que le GVT, normalement, est nul, puisqu'il doit être compensé par les nouvelles arrivées. Or, c'est pas ce qui se passe en réalité. Et donc, pour financer donc les salaires, les universités gèlent les postes. Donc, d'un côté, je crois que c'était Fioraso qui avait créé quelques postes, mais les nouveaux postes n'ont pas été ouverts par les universités. Ils ont été gelés pour abonder la masse budgétaire et pouvoir payer les personnels déjà en place.
Alors en France, on a actuellement 9 universités qui sont en situation de faillite. Alors est-ce que c'est un terme dont il faudrait peut-être débattre? Est-ce qu'une université peut être en faillite? Est-ce que vous l'entendez autour de cette table, cet impératif de dire voilà, on a un cadre budgétaire qui est restreint, on est amené à faire des arbitrages dans les enseignements? C'est un discours que vous entendez ou pas? Thomas pour la BAF.
Oui, donc y a un souci, c'est vrai, de budget, il y a un manque d'investissement global du gouvernement, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, l'université a une mission sur l'insertion professionnelle, sur ce professionnalisme. Et il y a des questions aussi en se disant, voilà, l'université ne vit pas en autarcie, comment elle peut travailler aussi de manière collaborative avec différentes organisations. Il y a des investissements à faire, il y a des orientations à faire, pourquoi pas, sur des choses qui se développent de plus en plus dans les universités. C'est sur la taxe d'apprentissage, par exemple. C'est des choses qui s'entendent, qui permettent de moins dépendre, on va dire, du gouvernement, on va dire, qui se désengage de plus en plus, et de permettre aussi d'avoir des apports financiers différents pour permettre justement de répondre à certains besoins qu'on ne pourrait pas forcément financer du fait du manque de la dotation du gouvernement.
Vous voulez parler, oui, Emmanuel Jacquet?
Oui, je pense qu'au niveau de la taxe d'apprentissage, il y a un très gros potentiel pour autant, puisque dans beaucoup de formations, il y a des stages et il y a également des projets sur lesquels les entreprises sont souvent partie prenante. Et donc s'intéresse bien sûr à l'université. Donc, je voudrais juste compléter aussi sur le fait qu'au-delà de la taxe d'apprentissage, il y a la possibilité aussi de favoriser ou de faciliter que les filières s'ouvrent à l'apprentissage et donc l'université soutienne des demandes faites à la région pour une ouverture à l'apprentissage, qui est aussi un moyen de financer certaines formations.
De faire participer la région, les collectivités territoriales. Exactement. Au financement de ces formations.
Ouais. Mais, il y a quelque chose de très, très étrange avec la taxe d'apprentissage, parce que c'est une taxe, donc les entreprises doivent s'en acquitter, c'est la loi, mais elles ont le choix du bénéficiaire. Donc ça implique que les formations doivent prospecter auprès des entreprises pour essayer de les convaincre qu'elles indiquent la formation comme bénéficiaire de la taxe d'apprentissage. Or, toutes les formations n'ont pas les mêmes moyens de prospection. Et puis, c'est quand même quelque chose de très étrange. Ça devrait être réparti par l'État selon des critères clairs. En réalité, la plupart des entreprises en Franche-Comté n'indiquent pas de bénéficiaires. Donc c'est la Chambre de commerce, qui est une association loi de 1900, la Chambre de commerce, qui répartit elle-même la taxe d'apprentissage et elle finance en priorité sa propre école de commerce. Donc la taxe d'apprentissage ne me paraît pas une solution. En tout cas, elle devrait être à réformer complètement.
C'est pas une responsabilité. Alors, aussi de l'université, c'est de démarcher justement les entreprises pour éviter que la Chambre des commerces passe de manière un peu en mode coopérative, récupère tout, dispatche par rapport à ses fonctions, alors que ça peut être très bien le rôle des universités. Et on le voit dans d'autres universités, comme l'Université technologique de Troyes, qui ont même un poste à part entière sur les taxes d'apprentissage, et ils vont voir n'importe quelle entreprise. On n'a pas forcément besoin de dire si c'est un truc qui est en rapport avec le sport, c'est pour les STAPS.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
She was a fast machine, she kept her motor clean. She was the best damn woman that I've ever seen. She had the sightless eyes, so telling me no lies, knocking me out with those American thighs. Taking more than a share, had me fighting for air. She told me to come, but I was already there. Cause the walls started shaking, the earth was quaking. My mind was aching, we were making it. You shook me up. She's just mine, oh mine. Wanted no applause, it's just another course. Made of me, laugh at me, and come back for more. Had to cool me down to take another round. Now I'm back in the ring to take another swing. That the walls were shaking, the earth was quaking. My mind was aching, and we were making it. You shook me all night long.
Seagulls, you shook me all night long.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
L'université est-elle en faillite? C'est la question posée cette semaine dans Univox. Avec la baisse des financements, la fermeture des filières à petits effectifs est-elle inéluctable? La fermeture, parfois, c'est la bonne solution, la plus simple à mettre en œuvre. C'est l'avis de Thierry Combes, maître de conférence à l'Université de Reims. Mais à l'écouter, il y aurait d'autres options possibles pour baisser les coûts, comme la mutualisation.
À l'intérieur d'une université, il y a quand même des possibilités que les filières reviennent moins chères. Enfin, je prends musicologie. Quand on fait la maquette, il y a un certain nombre d'unités d'enseignement qui sont spécifiques. Mettons, il y a un cours d'instrument. cours d'instruments, ça ne peut se faire qu'à l'intérieur de la musicologie, parce qu'ils ont quand même un niveau assez élevé, qui sont généralement au conservatoire. Donc là, les matières spécifiques, on ne peut pas les mutualiser. Mais par contre, il y a un certain nombre d'autres matières qu'on peut mutualiser. Histoire de la musique, on peut très bien le mutualiser en termes d'unité d'ouverture pour le reste de l'université. Un étudiant de première année qui veut de la culture générale peut très bien suivre le cours. Donc ça, il y aura les 9 habituels, plus 5 ou 6 ou 10 qui viendraient d'ailleurs. Ça permet d'avoir un cours un peu plus fourni, et on arrive à multiplier ce type de mutualisation, on peut penser à un système où il y aurait moins d'étudiants un peu éparpillés partout. Puis le dernier point aussi, c'est ce qu'il faut peut-être se dire, c'est que les unités d'enseignement, elles doivent traduire l'acquisition de compétences. Et l'acquisition de compétences, c'est pas uniquement le savoir qu'a annoncé maîtrise de l'instrument, ça peut être par exemple maîtrise de son environnement, le fait qu'on sache se présenter, ainsi de suite. On peut acquérir un certain nombre de compétences autres que celles dont on pense qu'elles sont liées à la filière. Donc ça, c'est des stratégies à faire en interne qui permettraient de maintenir des filières. 9 étudiants, ça commence déjà à être un effectif intéressant. En sciences, il y a des masters dans mon université qui ont été maintenus avec 2 étudiants. On s'est pas posé la question parce qu'effectivement, ces 2 étudiants qui allaient aller apprendre en thèse, ainsi de suite. Donc les questions... on se les pose pour les SHS, mais il y a des possibilités.
Alors, on peut remplir les salles de cours de musicologie avec des étudiants d'ailleurs qui pourraient venir faire des cours. C'est une option qui est raisonnable. Je ne sais pas, toi, Amélie, ce que tu en penses, tirer, prendre des cours avec les étudiants de musicologie sur l'histoire de la musique.
Je pense que oui, parce que comme il l'a dit, ça peut être sur le plan de la culture G, quelque chose d'enrichissant pour les autres étudiants. Parce qu'on a déjà, on peut avoir des cours de culture G à la fac, donc on peut aussi faire le choix d'une deuxième langue, mais c'est vrai que ça peut être quelque chose d'enrichissant. Et quand on voit, par exemple, en master, enfin, je fais du chinois, par exemple, à la fac, quand on voit au master qu'ils sont plus que 2, on se demande vraiment comment certaines langues, etc., vont continuer en master.
Oui, des petits effectifs. Qu'est-ce qu'en pensent les enseignants qui sont autour de cette table, faire cours? Parce que quand on voit certains amphis en psychologie, par exemple, qui sont pleins à craquer avec 150 étudiants, et puis à côté... Oui, beaucoup plus quand on est en première année. Et à côté, un petit effectif de 24 étudiants cette année en LEA italien.
Bah, c'est pas mal, 24.
Ce qui est pas mal, mais il y a quand même un spectre assez énorme entre 300
oui.
élèves d'un côté.
Alors, sur la question des mutualisations, j'ai bien entendu les recommandations du collègue. Heureusement qu'on ne l'a pas entendu pour les pratiquer, parce que les mutualisations, on les fait déjà depuis un moment. Et je ne pense pas qu'on puisse mutualiser plus. Par contre, je signale à la présidence de l'université qu'il y a un gisement d'économies dans les CMI, les cursus master ingénierie qui foisonnent à l'UFRST. Il suffit de regarder ce qui est prévu là pour 2017 et on voit des CMI partout, partout, partout. Ces CMI sont de gros consommateurs d'heures, en particulier d'heures CM, cours magistral, qui sont payés plus cher, donc qui coûtent plus cher à l'établissement. Ces CMI ont des effectifs étudiants très réduits. Et donc il y a très clairement un choix là de l'université de favoriser ce type de formation. Et je pense que l'UFR et CHS est sacrifié pour financer ces choix budgétaires. Et ce sont des choix totalement contestables.
Donc quand on vous écoute, il y a 2 vitesses. Je crois qu'il y avait une réaction peut-être.
Oui, je trouve ça juste aussi un peu. Je trouve ça un peu juste naïf de penser qu'on peut pas travailler avec le monde professionnel parce qu'on le fait déjà. L'université le fait déjà, que ce soit avec les licences professionnelles, que ce soit avec les licences, avec les stages, etc. Mais tout simplement, je voulais juste réagir sur ça.
Pablo de la MEP, tu voulais réagir, je crois.
Bah oui, mais comme ça a été dit, je crois que c'est comme ça a été un peu souligné par Michel. Je crois que c'est naïf de penser que les financements privés sont accordés aux universités sans contrepartie et de manière tout à fait altruiste. Les financements privés qui arrivent dans nos universités, c'est quelque chose de très dangereux et de très pervers, parce que forcément, ces financements, ils vont plus facilement arroser des formations qui servent les intérêts privés, qui ont des voies de professionnalisation toutes tracées vers le monde de l'entreprise et ces choses-là, et elles vont arroser beaucoup moins facilement des formations qui délivrent un savoir autre, un savoir pas forcément directement applicable au monde de l'entreprise et qui peut être un savoir critique, un savoir littéraire, un savoir... Et c'est notamment le cas des sciences sociales, mais c'est pas seulement ça. Dans les sciences qu'on dit dures, comme les maths, etc., il y a aussi toute la question de l'indépendance de la recherche. Enfin, c'est le cas aussi en lettres, enfin partout, mais aussi en sciences. Par exemple, dans les maths, la recherche purement théorique et la recherche pour le savoir pour le savoir, ben c'est pas des choses qui vont être privilégiées si on en vient à compter plus sur les financements privés. Donc on pense que ça c'est une fausse solution parce que c'est quelque chose qui a beaucoup d'effets pervers et qui peut être tout à fait à double tranchant, et il faut miser sur un financement 100% public pour que l'université garde son indépendance et sa pluralité.
Maxime, de la président de la BAF, tu voulais réagir ?
Oui, je voulais rebondir par rapport du coup à l'attractivité des formations et cette insertion professionnelle. Au nom de la BAF et puis de la FA, je pense qu'on représente un réseau d'associations étudiantes qui sont en fait en capacité d'aller intervenir dans les lycées, notamment aussi par les salons Studirama et autres, afin de faire de prévenir exactement les lycéens, le cadre des formations et puis l'aboutissement professionnel qu'il peut y avoir derrière, afin de prévenir les lycéens que ces formations elles existent, premièrement, qu'elles existent proches d'eux ou peut-être un petit peu plus loin, afin de remplir beaucoup plus les rangs.
Alors Amélie, tu voulais réagir ?
Oui, c'était juste pour dire qu'en fait j'étais d'accord, puisque sur le site, quand je me suis inscrite à APB quand j'étais au lycée, je suis en licence Infocom et c'était toujours marqué sciences du langage Infocom. Et nous, quand on est arrivé le premier jour à la fac, on a cru qu'on allait faire une licence SLIC. Et au final, on s'est rendu compte qu'on a su le premier jour qu'ils avaient séparé les deux licences. Et donc du coup, moi au début, m'avais inscrit en sciences du langage, donc j'ai dû changer. Mais c'est vrai que même encore à l'heure actuelle sur le site, on peut voir qu'il y a encore SLIC. Et pas Infocom d'à côté, sur du langage. Et c'est vrai qu'on a été plusieurs à être piégés, enfin pratiquement 90% de ma promo à être piégés comme ça, arriver le premier jour et se dire au final on n'est pas dans la licence auquel on pensait aller en arrivant en fait.
De l'importance de s'informer sur ces sujets compliqués, il est question de budget, de dotation d'État, de quelles sources de financement pour l'université de demain, les gels de postes d'enseignants-chercheurs, autant de questions qu'on a essayé de détricoter ensemble dans ce numéro d'Univox. Merci à nos invités, Michel Savary, vous êtes responsable de la licence LEA de l'Université de Franche-Comté, Emmanuel Jacquet, co-responsable de la licence professionnelle Eco-Design, Amélie, étudiante en Infocom, Pablo du syndicat étudiant LAMEB, membre de la Fédération Solidaire Étudiant, Maxime et Thomas de la BAF, association étudiante, membre du réseau La Page. Émission réalisée cette semaine par Benoît et Cécile, depuis les studios de Radio Campus Besançon. Univox.